France Inter.
Ce soir, eh bien, je vous emmène 30 ans en arrière à la rencontre d'un génie. Je réécoute ça, je vais vous dire la vérité, il m'est impossible de me glisser dans la peau d'un simple conteur radiophonique chargé de commenter, comme je le fais 4 soirs par semaine, le programme musical qu'il a choisi. Jeff Buckley, qu'on vient d'entendre, ça a été pour moi, comme pour beaucoup, une affaire personnelle, comme une relation intime. Et quand je réentends un peu plus de 30 ans après déjà sa voix, et en particulier cette chanson « Last Goodbye », j'ai l'impression qu'une vague remonte en moi d'une hauteur telle que je n'en ai guère connu depuis. Je me revois à l'été 1994, en vacances, sur une île en Méditerranée, écoutant l'album Grace, le soir, au retour de la plage. Captivé, émerveillé et comme intimidé et même rapetissé par cette voix plus grande que nature et ce son qui s'échappait de cette espèce de gros ghetto blaster noir sur lequel j'écoutais les chansons très variées de cet album auquel je ne cessais de revenir. C'était un peu comme un programme de radio idéal. C'est pas que les chansons en elles-mêmes avaient paru prodigieuses comme pouvaient l'être à mes oreilles certaines des Beatles, des Beach Boys, de Bob Dylan ou même d'ailleurs des Smiths, lesquelles pour moi représentaient une sorte de perfection. Non, Jeff Buckley, c'était autre chose. Une voix, comment dire ça, qui aspirait les mots, qui aspirait les mélodies, les styles très variés pour les entraîner vers une hauteur particulière où aucune voix humaine n'avait évolué jusque-là à part la sienne. Oui, les chansons de l'album Grace, le seul que Jeff Buckley a publié de son vivant, c'était déroutant. On tombait sur Last Goodbye qu'on vient d'entendre, c'était une sorte de version grunge de Led Zeppelin, après quoi il y avait une reprise d'une chanson qu'avait popularisée en son temps Nina Simone, Lilac Wine, une chanson très connue et qui m'obsédait, ou encore très inattendue, une interprétation du cantique Corpus Christi. C'est une mélodie du grand compositeur britannique du milieu du siècle dernier, Benjamin Britten, l'auteur de l'opéra Billy Budd. À chaque fois, Jeff Buckley partait vers un ailleurs. Il donnait vie, grâce à sa voix, à un paysage, à un monde luxuriant vers lequel on avait envie de s'élever et qui évoquait, je sais que ça peut sembler paradoxal, cette formule que je vais employer, ça évoquait de façon fugace une forme d'éternité. Grace est le seul album que Jeff Buckley a publié de son vivant. Et quand je l'ai découverte, cette voix, eh bien, ça m'a redonné foi en la musique, en son pouvoir exaltant, à une période où j'étais désillusionné. J'avais l'impression que le rock dit alternatif, tel que je le voyais, enfin comme je l'avais défendu dans les années précédentes, était mourant, s'égarait dans des méandres de nostalgie, que toute cette histoire était en train de se terminer, parce que 1994, c'était l'heure de la dance, de la techno, des rave parties, et seule la voix des rappeurs semblait animée par une forme de vitalité, par une vraie force. Et puis voilà, Jeff Buckley est arrivé, une sorte de talent intemporel, inclassable, et une voix, comme je vous le disais, comme on n'en avait jamais entendu. Alors pourquoi vous parler de Jeff Buckley ce soir, à part que ça me fait plaisir, ça fait sûrement plaisir à beaucoup de monde, enfin j'espère. Eh bien parce que l'actualité me donne un beau prétexte, enfin prétexte, on s'est un peu mesquin, mettons une bonne raison. Depuis la semaine dernière, certains cinémas projettent en France, d'ailleurs partout dans le monde, pour des séances du soir, en tout cas en France, un documentaire que lui a consacré la cinéaste américaine Amy Berg, qui avait réalisé il y a 10 ans de ça un documentaire déjà sur la vie de la chanteuse Janis Joplin, qui s'appelait Janis, Little Girl Blue. Ce documentaire consacré à Jeff Buckley s'appelle tout simplement It's Never Over, Jeff Buckley. À l'origine, l'acteur Brad Pitt, un passionné de Jeff Buckley, dont il a dit, ce qui n'est pas faux, peut-être pas central, que celui-ci était à la fois Robert Plant et Jimmy Page, Brad Pitt donc avait exprimé le souhait d'incarner Jeff Buckley à l'écran, comme Timothée Chalamet l'a fait récemment pour le jeune Bob Dylan. La mère de Jeff Buckley, Mary Gilbert, qui veille très attentivement à la mémoire de son fils depuis sa mort accidentelle en 1997, a dit non à Brad Pitt, mais l'a accepté plutôt le principe d'un documentaire qu'elle a confié à Amy Berg. Alors j'ai eu le temps de voir que la première moitié de ce documentaire, faute de temps, un documentaire classique de facture, ça n'a rien à reprocher, au contraire, il a le mérite de présenter des images filmées, vraiment des documents exceptionnels, des enregistrements de ses débuts en solo dans un petit bar de l'East Village new-yorkais, un bar irlandais qui s'appelait Sheeney et que Jeff Buckley a rendu légendaire et même immortel, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Voici une chute des séances d'enregistrement de l'album Grace en 1980. Il s'agit de la reprise par Jeff Buckley d'une chanson de Bob Dylan que celui-ci avait enregistrée en 1964 et que finalement il n'avait pas retenue. On avait découvert cette chanson « Mama, you've been on my mind » à l'occasion de la parution en 1991 du premier volume des archives de Dylan, « The Bootleg Series ». Ce qu'en a fait Jeff Buckley, tout seul, s'accompagnant d'une guitare électrique à peine amplifiée, donne une idée de ce que pouvaient entendre les clients du bar Sheeney à New York en 1992. «
Perhaps it is the color of the sun caught flat and covering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. But mama, you've been on my mind. I mean no trouble, please don't put me down. Don't get upset, I am not pleading. Oh, saying I can't forget you. I do not pace the floor, bow down and bend, but yet. Mama, you've been on my mind. Even though my eyes are hazy and my thoughts, they might be narrow. Where you been? Don't bother me. Or bring me down with sorrow. I don't even mind who you'll be waking with tomorrow. But mama, you're just on my mind. I am not asking you to say words like yes or no. Please understand me. I have no place I'm calling you to go. I'm just whispering to myself so I can't pretend that I don't know. Mama, you're just on my mind. Up in the morning, baby, look inside your mirror. You know I won't be next to you. You know I won't be near. I'd just be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind.
I Very Good Trip. Mishka Assayas sur France Inter.
29 pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell, lilac skin, your flame. Nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell, and lilac skin, you're flaming me. I'm only here for this moment. I know everybody here wants you. Such a thing of wonder in this crowd. I'm a stranger in this town. You're free with me. And our eyes locked in outcast love. I sit here proud. Even now you're undressed in your dreams with me.
Everybody Here Wants You, c'est une chanson qui aurait dû figurer dans ce qui aurait pu être le second album de Jeff Buckley, dont le titre de travail était My Sweetheart the Drunk. Un album qu'il n'a pas eu le temps d'achever puisqu'il est mort des suites d'une noyade en mai 1997 à l'âge de 30 ans. Il en avait enregistré une première version à New York, dans un studio, sous la supervision de Tom Verlaine, le guitariste et chanteur du groupe Television, et qui fut aussi d'ailleurs un fréquent collaborateur de Patti Smith. Une version dont Jeff Buckley n'était pas du tout content et qu'il avait décidé de ranger dans un tiroir, tiroir dont les disques Columbia ont sorti ses enregistrements pour les publier un an après sa mort, sous le titre, au fond honnête, de Sketches for My Sweetheart the Drunk, esquisse pour My Sweetheart the Drunk. Alors pour être franc, c'est un album que je n'ai guère écouté. Il y avait quelque chose de figé dans la voix de Jeff Buckley comme dans l'accompagnement, et on comprend à entendre ces enregistrements pourquoi Buckley a voulu tout reprendre à zéro. Ça n'excuse pas le fait que je sois passé à côté de cette très belle chanson qu'on vient d'entendre, qui s'appelle Everybody Here Wants You, et qui sonne un peu comme une chanson des Smiths si les Smiths avaient été inspirés par les ballades soul de Philadelphie des années 70. Heureusement qu'il y avait des oreilles plus attentives que les miennes en 1998, puisque cette chanson est aujourd'hui une des plus écoutées et aimées de Jeff Buckley. D'ailleurs, en me penchant près de 28 ans après sur cet album posthume, sorti de ma mémoire, album inachevé, je découvre aussi cette très belle chanson qui s'appelle Morning Theft, qui tient vraiment très bien toute seule, bénéficiant d'un accompagnement réduit au minimum.
Time takes care of the wound, so I can believe you had so much to give, you thought I couldn't see. Gifts for boot heels to crush, promises deceived. I had to send it away to bring us back. Your eyes and body bright and silent waters deep. Your precious daughter in the other room asleep. A kiss goodnight from every stranger that I meet. I had to send it away to bring us back. Pretender left ungrateful. True self is what brought you here to me, a place where we can accept this love. History unexamined failure. What am I still to you? Some thief who stole from you, or some fool drama queen? Chances were few. Love brings us to who we need, a place where we can save, a heart that beats as both siphon and reservoir. Starlight, meet me tomorrow night, or any day you want. I have no right to wonder just how or when. No, the meeting fits, there's no relief in this. I miss my beautiful friend. Send it away to bring her back again. Ooh.
Very Good Trip, Mishka Assayas sur France Inter.
My little square, even though I'm so at my little fan. Maybe it's still there today. I sometimes hear that little tune played in a dream of long ago.
Un des grands moments des concerts de Jeff Buckley, il l'avait chanté, je m'en souviens, au Bataclan, il y a tout juste 31 ans, en février 1995, j'y étais, et je me rappelle avoir été terriblement frustré parce que les hurlements d'enthousiasme du public couvraient souvent sa voix, et l'événement qu'était sa présence sur scène à Paris, devant un public fou de lui, avait d'une certaine façon pris le pas sur la musique qu'il proposait. Dans cette chanson, Jeff Buckley reprenait en français un passage d'une chanson d'Edith Piaf dont, pour être parfaitement honnête, j'ignorais alors l'existence et qui s'appelle « Je n'en connais pas la fin ». Donc ce qui a donné le titre de la chanson de Jeff Buckley qui n'est pas tout à fait la même. Alors c'est drôle, on apprend dans le documentaire dont je vous parlais, « It's never over, Jeff Buckley », que l'ambition du chanteur était d'être, en français dans le texte, une chanteuse. I wanted to be a chanteuse, c'est ce qu'on entend dire. Et c'est vrai, ses premiers émois musicaux, ça a été, sa mère Mary Gilbert le raconte dans le film, la voix féminine de Diana Ross qui chantait Ain't No Mountain High Enough en 1970. Le garçon faisait, le petit garçon faisait des vocalises dessus, il avait quoi, 3 ou 4 ans. Sa mère aimait écouter des chansons de Judy Garland, des chansons de comédie musicale que le petit Jeff adorait. Et puis Nina Simone, bien sûr, c'est sans doute la voix qu'il a le plus imprégnée. Mais ça va plus loin que ça. Au-delà de sa féminité assumée, Jeff Buckley était capable d'adopter les inflexions de toutes les voix masculines et féminines dans lesquelles il se projetait sans que ça sonne jamais comme de l'imitation ou de la singerie d'émissions de télécrochet. Quand il devenait, je sais pas, Robert Plant de Led Zeppelin ou encore Morrissey des Smiths, qu'il adorait, ou alors même Bob Dylan ou n'importe quel autre d'ailleurs, il accédait à chaque fois à une dimension particulière de lui-même qui était une création particulière. C'est difficile à décrire. Jeff Buckley ne chantait pas les chansons des autres en tant qu'interprète extérieur. Il donnait l'impression, au contraire, d'avoir toujours vécu à l'intérieur de ses chansons, d'y habiter, et qu'elles sortaient de lui comme un torrent descend de sa source. Il avait aussi, Jeff Buckley, une aptitude à la mémorisation absolument hors du commun. On entend dans le documentaire dont je vous ai parlé, Jeff reprendre une mélodie d'une rare difficulté, hein, si vous n'avez pas baigné dans cette musique, du défunt chanteur pakistanais de Qawwali, Nusrat Fateh Ali Khan, qu'un public occidental a découvert dans les années 80-90 par l'entremise de l'anglais Peter Gabriel, dont la compagnie de disques Real World avait diffusé les enregistrements. Comme ça, je me souviens, j'avais acheté cet album et j'avais été tout à fait impressionné par cette musique qui semblait vraiment venir d'une autre planète. Eh bien, Jeff Buckley était capable de chanter ses chants soufis, note pour note, vraiment, comme si c'était pour lui aussi évident, je sais pas, que chanter à la Clairefontaine. Alors, j'ai pas le temps ce soir d'évoquer toutes les facettes, il s'en faudrait, hein, du talent et de la personnalité artistique de Jeff Buckley. Je voudrais souligner la façon étonnante, voire fascinante, dont il s'est fait connaître et qui est tout sinon banal. Jeff était un enfant unique élevé dans la région de Los Angeles par une mère hippie qui l'adorait. Elle l'avait eu à 17 ans, c'est très jeune. Le père était un musicien de passage, un immense musicien, hein, beaucoup le savent, du nom de Tim Buckley. Et quand son fils est né, celui-ci avait sa vie d'artiste devant lui et il n'entendait pas la sacrifier. Il a donc dit avec franchise à Mary, la mère de Tim, qu'il n'était pas fait pour être père. Il est parti, il n'a plus donné de nouvelles. Mary, qui rêvait de son côté d'être comédienne, a trouvé néanmoins normal, elle, de sacrifier sa carrière pour élever son fils, auquel on peut dire qu'elle s'est sacrifiée et dont on peut dire aussi qu'il a été le grand amour de sa vie. Bref, je suis obligé d'accélérer un peu. En 1991, Jeff, un quasi-inconnu, a été convié à participer à New York, où il n'habitait pas du tout, à un hommage à son père. Tim Buckley, c'était dans une église. Son père, qu'il n'avait vu qu'une seule fois, très brièvement, à l'âge de 8 ans, il l'avait entendu un soir chanter sur scène et Tim Buckley avait invité le petit garçon à passer quelques jours dans sa nouvelle famille. Et puis plus rien. Quelques mois plus tard, Tim Buckley mourait après avoir absorbé un mélange de drogue surdosée. Et voilà que 16 ans plus tard, en 1991, Jeff, devenu musicien à son tour, avait accepté, c'était pas facile pour lui, de venir rendre hommage à ce père qui l'avait abandonné et dont tout le monde lui parlait, parce que le nom de Tim Buckley, évidemment, était légendaire. D'ailleurs, une fois, on lui a demandé, « Jeff, qu'est-ce que vous devez à votre père, Tim ?» Il avait répondu en faisant la gueule, « Ce que je lui dois, c'est des gens comme vous qui me posent des questions sur lui. » Et l'étonnant pourtant, c'est qu'il avait accepté de reprendre une chanson qui s'appelle « I Never Asked to Be a Mountain », dans laquelle justement Tim Buckley disait à son fils qu'il n'était pas fait pour être père.
Try to
Forget Her, c'est la chanson qui concluait l'album de Jeff Buckley, Grace, en 1994, et dans laquelle il fait vivre, je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi, avec une incroyable force, l'esprit de Robert Plant, qui fut le chanteur de Led Zeppelin, comme s'il en extrayait une essence et en faisait une autre plante, hein, si j'ose dire, encore plus verte et riche en sève que l'original. Un titre, Forget Her, qui éclaire aussi la qualité de son jeu de guitare, un instrument qu'il avait travaillé avec acharnement dès la fin de l'enfance. On apprend d'ailleurs dans le documentaire qui lui est consacré que Jeff Buckley était obsédé par le jeu d'un immense guitariste de jazz, Al Di Meola, qui fut un maître de ce qu'on appelle la fusion. Ce que j'ignorais, mais de quoi Jeff Buckley n'était-il pas capable? Alors je vous parlais des étonnants débuts de Jeff Buckley, le Californien, à New York, où, accompagné par un excellent guitariste, Gary Lucas, il avait repris, devant un public absolument subjugué, une chanson de son père Tim. Après ça, Buckley a suscité beaucoup de curiosité. Il est resté à New York, et c'est là que l'histoire ne ressemble absolument à aucune autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Jeff Buckley s'est fait embaucher dans un minuscule bar irlandais de l'East Village new-yorkais qui s'appelle Sheeney, où il était serveur et un peu homme à tout faire. Il préparait les cafés, il faisait la plonge. Alors les patrons lui avaient dit « t'es musicien, pourquoi tu jouerais pas comme ça dans un coin? Pourquoi tu n'irais pas des soirées? Après tout, si t'aimes chanter, tu peux le faire. » Il n'y avait pas de scène, c'était vraiment le troquet du coin. C'est imaginé au maximum 30 à 40 personnes qui pouvaient tenir là-dedans. J'ai vu des photos, c'est vraiment comme un PMU, quoi. Enfin bon. Et Jeff Buckley chantait, jouait des heures et des heures, tout ce qui lui passait par la tête. Parfois, ça pouvait durer toute la nuit. Et puis, il faisait des blagues aussi, tout ça. Enfin, il était l'homme à tout faire. Il s'arrêtait, il arrêtait de chanter, il allait derrière le comptoir, il faisait des cafés, enfin, il débarrassait, puis il revenait. Enfin, c'est quelque chose absolument, enfin, à ma connaissance, qui n'existait pas dans le domaine vraiment du folk ou du rock aux États-Unis, et c'est tout à fait unique. Très vite, à New York, les gens se sont passés le mot et on se massait tous les lundis pour avoir une chance d'entendre Jeff Buckley. Un soir, ça pouvait être Nusret Fateh Ali Khan, un autre c'était Edith Piaf, un autre encore Nirvana, d'autres soirs c'était tout ça en même temps, et voilà, le reste, comme on dit, appartient à l'histoire.
Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof.
Et oui, c'était impossible de consacrer une soirée à Jeff Buckley sans vous faire entendre son interprétation la plus célèbre, Hallelujah. Alors, c'était pas celle qu'on entend dans l'album, mais c'est un live dans les studios Bearsville, c'est dans l'État de New York, et c'est particulièrement intense. Il faut savoir que cette chanson, personne ne savait qu'elle était de Leonard Cohen, enfin très peu de gens le savaient, et Jeff Buckley l'avait en fait découverte parce que John Cale, qui l'avait reprise, l'avait interprétée dans une salle à New York où il se trouvait, c'est comme ça qu'il avait été séduit, ému, et c'est comme ça qu'il a transcendé cette chanson. Il me reste à vous dire qu'il existe un très beau coffret, une nouvelle édition de 4 vinyles qui reprennent l'intégralité de ce qui avait été publié des enregistrements de Jeff Buckley live dans ce café Chiney, hein, dont je vous parlais, ça s'appelle Live at Chiney. Franchement, je vous le conseille, c'est un très bel objet et faites-le vous offrir, je sais pas, enfin faites quelque chose, si vous le pouvez. Et je vous rappelle aussi le documentaire que vous pouvez toujours voir au cinéma qui s'appelle It's Never Over, Jeff Buckley. Ce sont des séances du soir principalement.